With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet, gadget. On m'a fait remarquer que je répétais ce qui était déjà dit en intro juste avant le générique. Et c'est vrai, il faudrait que je le répète pas à chaque fois. Mais bon, que voulez-vous, c'est l'habitude, on a du mal à s'en défaire. Même si le comité de production de l'émission, qui est un vrai truc, me le fait remarquer, il faut que je m'habitue à changer. S'habituer au changement, voilà un beau thème pour cette émission qu'on va évoquer peut-être à un moment. Je suis Patrick Béja et pour décortiquer tous les sujets dont on va vous parler. On va parler un petit peu de la Ligue du LOL, qui est impossible à éviter, mais avec un angle un petit peu différent. On va parler aussi de Spotify qui se lance à fond dans le podcast, peut-être enfin la maturité pour le podcast, pour le meilleur et peut-être pour le pire. On va aussi parler de Amazon Live, de Facebook qui va vous donner plus d'infos sur ce que vous voyez dans les pubs ou pourquoi vous voyez des pubs. On a une journaliste américaine qui a essayé de vivre sans les GAFAM, et bah ça a été compliqué. On va en parler dans l'émission. Mais avant ça, j'aimerais accueillir les deux fantastiques co-animateurs qui vont m'aider à décortiquer tout ça. Est-ce que j'ai dit mon nom ? Patrick Béja, bonjour, enchanté. Et donc, je suis avec Cédric Ingrand qui se joint à nous comme tous les mois. Comment ça va, Cédric ? Ah, Cédric a disparu. Ou alors, il s'est muté.
Je m'étais muté. On va c'est la reprendre. Ne fais pas le retour. Oui, salut Patrick. Ravi d'être ici. D'autant que tu l'as dit, on a beaucoup de sujets intéressants et des vrais sujets de fond là pour de coup à couvrir. On va la refaire.
Non, mais c'est bon. Tu es un professionnel. On fait straight to hard drive.
Je voulais savoir qui était ce comité de production. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, alors le comité de production fait partie du... C'était même pas répété. Le comité de production, c'est un des niveaux de récompense pour le refresh du Patreon. Et c'est les gens qui sont, on va dire, le cercle le plus proche des auditeurs et des contributeurs à l'émission qui, du coup, sont utilisés par mes dans l'émission pour poser des questions sur certaines choses que je fais, ce qui est bien, ce qui est pas bien, où amener l'émission. Je vais en parler un petit peu plus plus tard dans l'émission parce que le Patreon a un gros refresh et il y a des choses comme par exemple l'activation d'un flux RSS pour un podcast privé que vous pouvez utiliser dans votre podcast, dans vos lecteurs de podcast classiques pour avoir les contenus audio que je fais en exclusivité pour le Patreon et d'autres choses. Il y a plein de choses, mais donc c'est un gros refresh qui sera mis en place dans les heures après la publication de cette émission et il y a plein de choses super sympas dont je vous parlerai dans un instant. Mais oui, le comité de production en fait partie. Donc, ça, c'était pour Cédric Ingrand de ce côté. Et de l'autre, j'ai l'immense plaisir de recevoir également Fred Cavazza, à qui j'avais proposé de participer à l'émission. Je crois que c'était en 2014. Donc, rendez-vous compte de la durée du travail qu'il a fallu pour le faire venir dans l'émission. Fred est un marketing technologiste, selon son terme préféré, conférencier, analyste, etc. Merci beaucoup, Fred, d'être là avec nous. Est-ce que tu veux te présenter peut-être un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Eh bien, bonjour à tous. Je suis content de pouvoir participer à ce podcast. C'est un exercice que je n'ai pas forcément l'habitude de faire.
On va te mettre à l'aise, t'inquiète pas.
Petite précision, la demande initiale de podcast n'était pas en 2014, mais en 2011. Je suis allé vérifier dans mes emails, donc effectivement, ça remonte.
Oui, c'est vrai, oui. Ouf, depuis 2011. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais les podcasts le soir, et toi, travailleur conscient de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, tu m'avais dit, écoute, désolé, le soir, j'évite vraiment de travailler, donc ça ne va pas être possible. Mais maintenant, comme c'est mon travail aussi, dans la journée, magnifique.
Et est-ce vraiment du travail ?
Ah, c'est que du plaisir. Est-ce que le travail peut être du plaisir? Ça aussi, c'est une bonne question. Bon, on y répondra dans un épisode à venir. Mais donc, Fred, oui, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce que tu fais pour nos auditeurs?
Oui, tout à fait. Donc, je travaille dans le monde du numérique depuis plus de 20 ans. Donc, ça commence à dater, mais c'est toujours d'actualité puisque le numérique évolue, on va dire, assez régulièrement. Et c'est quelque chose que je me propose d'analyser dans un blog qui s'appelle fredcavazza.net, que je rédige depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, essayer de comprendre où va le numérique, qu'est-ce qui est à notre disposition, quel impact ça a sur les entreprises, les marques. Je suis diplômé en marketing, donc j'ai un point de vue très marketeux autour de tout ça. Mais voilà, j'essaie de décrypter, j'essaie de démystifier, j'essaie d'aider en fait mes lecteurs à se projeter dans l'avenir de ce que le numérique peut nous apporter ou de ce qu'il ne peut pas nous apporter.
Oui, et de ce qu'il peut provoquer peut-être comme chose non souhaitable également, parfois, parfois. Et ben justement, c'est parfait comme transition, puisque ce dont je voulais parler, et j'avais prévu d'en parler avant que le scandale de la Ligue du LOL n'arrive sur la scène française. Donc je vais expliquer en deux mots pour ceux qui l'auraient pas suivi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'est la Ligue du LOL. Mais avant ça, la raison pour laquelle je voulais parler de ces sujets, c'était une étude de Microsoft qui a commencé à faire des études sur, on va dire, la qualité de l'Internet et la qualité des relations qu'on peut avoir sur Internet et de la toxicité qui peut exister sur le net. Et ils ont constaté une progression positive dans cette étude qui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour le coup, c'est moins important qu'on aurait pu le penser à l'origine, mais ça pourrait être anecdotique, mais c'est un signe positif dans une impression générale qui est souvent pas très positive, justement. Donc, en général, ce qu'ils ont constaté, c'est que de nombreux pays dont on pense qu'ils sont souvent envahis par des agressions et de la toxicité sur Internet, voient une progression vers, justement, moins d'exposition, moins de risque d'exposition à cette toxicité, qui peut être due à différents facteurs. Donc, c'est une progression par rapport à l'année dernière, notant que l'année d'avant, on était un petit peu plus bas encore. Donc, ça peut, comme je le disais, rester anecdotique. Mais la question que ça m'a donné envie de poser, c'est, ça fait maintenant, on va dire, une dizaine d'années, un petit peu plus, que les réseaux sociaux existent. Ça fait plus longtemps encore que les forums et d'autres moyens de communication sur Internet existent. Et ce qu'on constate depuis le début, c'est que à partir d'un certain moment, toutes ces formes de communication semblent mener à soit de la toxicité, de l'agressivité, soit même, je pense que ça peut être le cas de Twitter, une sorte d'ambiance, on va pas dire malsaine, mais enfin d'ambiance déprimante presque. C'est-à-dire que quand on lit Twitter régulièrement, on a l'impression que rien ne va dans le monde, qu'il y a des urgences insolubles partout, que tout le monde est négatif, néfaste. On a vraiment cette impression que, comment dire, c'est presque une déprime permanente qui nous est imposée par les vecteurs de communication de l'Internet. Et la question que je voulais poser, c'était, est-ce que c'est un état de fait qui est dû à la nature du médium, de la communication du net, qui met peut-être les gens en relation d'une manière différente. Ça me fait penser à l'image, vous savez, la fable avec le scorpion qui monte sur la tortue et qui lui promet de ne pas le piquer. Mais le scorpion, c'est sa nature. Donc, même quand il est arrivé à l'autre bout de la rivière qu'il voulait traverser, il pique la tortue ou le crapaud, je ne sais plus, quand même. Parce que pourquoi ? C'est sa nature. C'est comme ça. Alors, est-ce que la toxicité ou l'agressivité ou la déprime qu'elle nous provoque, c'est dans la nature d'Internet, ou est-ce que c'est un médium, un mode de fonctionnement même pour la société qui est tellement différent, tellement révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait avant? Ça, vraiment, c'est un facteur de transformation de la société qui est, je pense, parmi les plus grands qu'on ait rencontré, qu'on ait vécu en tant que civilisation et même en tant que race animale. Et donc, est-ce qu'il faut le temps de l'apprivoiser, de s'y adapter? Et est-ce qu'à un moment, on pourra arriver dans un environnement qui sera moins agressif, moins déprimant, moins toxique? Donc, dans ce contexte, est survenue l'histoire de la Ligue du LOL. Je vais détailler ça en un instant, on va en discuter un moment, mais rapidement, pour arriver à ce sujet un petit peu plus vaste. Donc la Ligue du LOL, c'était un groupe Facebook qui était peuplé de, on va dire, visiblement de journalistes plus ou moins influents de la scène parisienne et française, surtout parisienne. Je crois qu'on peut les décrire comme les gens qu'on aime détester dans les milieux branchouilles influents du milieu surtout journalistique. Et donc, ce groupe était à l'origine visiblement conçu pour partager des sujets, des blagues, des sujets marrants, des trucs de ce type-là, comme n'importe quel groupe Facebook. Et du fait de sa population, des membres qui la composaient, il semblerait que ça a été propice à une utilisation perverse pour coordonner plus ou moins... Selon les témoignages, c'est plus ou moins volontaire cette coordination, mais de fait, elle est réelle, pour coordonner plus ou moins des attaques envers d'autres membres de la sphère journalistique et même de la sphère médiatique et Internet de l'époque. On parle de, je crois, 2008-2009, et ça a continué pendant plusieurs années. Et ça a créé des agressions assez graves, des agressions, on va dire, intellectuelles, mentales, comme on en connaît beaucoup sur Twitter. C'est du bullying, vraiment, qui, et je ne dis pas ça pour minimiser la chose, on ne parle pas d'agression physique, mais c'est quand même des agressions assez, assez graves, de la même manière qu'on peut avoir du bullying, de l'agressivité, du harcèlement, qui peut se devenir vraiment préoccupant. Et donc, les cibles préférées de ces gens-là étaient visiblement, comme souvent dans ce type d'affaires, eh ben on retrouve des femmes et des féministes, des personnes de couleur, des personnes homosexuelles, et ça va même plus loin. On a notre ami Corben qui avait été victime de ce type de harcèlement également. C'est resté un petit peu caché, parce que bien sûr, il y avait une sorte d'anonymat, semi-anonymat, et une sorte de loi de l'omerta qui faisait que personne n'en parlait. C'est resté caché pendant longtemps, jusqu'à maintenant, donc ça fait entre 5 et 10 ans, on va dire, ou pour différentes réseaux, différentes raisons, en particulier un article... du formidable Check News de Libération qui a détaillé tout ça, et donc c'est parti de cet article, et donc les langues se sont déliées, les témoignages sont arrivés, et on a constaté l'ampleur de cette... on parle vraiment je sais pas, j'ai pas envie de dire d'une mafia, ça serait un petit peu exagéré, mais en tout cas d'un cercle néfaste de différentes personnes qui, dont certaines, se retrouvent aujourd'hui mises à pied de leur poste. Il y a vraiment une mise en lumière de ces choses-là. Donc, rapidement, je vais vous demander votre avis sur la chose. Je crois que tout a été dit et qu'on sera un petit peu tous d'accord. Mais tout de même, et puis juste avant. Est-ce que vous avez à un moment fait partie de ce groupe Facebook ou parce que moi j'en avais même pas entendu parler.
Du coup, je suis assez déçu en fait. J'aurais pu y être.
Pas déçu ou pas. Finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose.
Rétrospectivement, finalement, je suis moins déçu que voilà. C'est mais c'est amusant parce que c'est un groupe qui avait été créé par de fait des gens qui étaient très tôt sur les réseaux sociaux et qui l'utilisaient pour se partager des liens rigolos. Et puis apparemment, ça a glissé un peu vers du trolling. Et là, il y a ce qui ressemble à une espèce d'effet de meute. Probablement pas pour tous d'ailleurs, c'est parti totalement en freestyle et il y en a qui sont devenus des espèces de tortionnaires. Enfin, c'est voilà.
On est vraiment dans cet esprit de bullying. On a la personne ou les personnes qui sont dans le groupe des gens cool qui se sentent renforcés par cette capacité qu'ils ont à prendre une personne pour cible et puis lui nuire, peut-être parfois même, j'ose le dire, sans se rendre compte de la portée de leurs actes. Mais enfin, c'est pas qu'on puisse dire, même si on se rend pas compte que ça va. Affecter à ce point une personne, c'est pas quelque chose de gentil non plus. On a eu beaucoup de mots d'excuses un petit peu à moitié. Certains semblaient relativement sincères, même si c'était un petit peu de circonstance. Il y en avait d'autres qui disaient « Oui, je suis désolé, si des gens l'ont mal pris », on a l'impression que les gens étaient complètement, ces gens-là étaient déconnectés de la réalité de ce que leurs actions provoquaient, quoi.
Oui, alors c'est amusant parce que les plus tortionnaires du lot sont pas les plus connus en fait. Mais alors je suis un tout petit peu gêné parce que là on a quoi 48 heures, 3 jours de recul par le contre-coup, tu vois l'effet de meute à l'envers où tout à coup tu te retrouves 10 ans après, 8 ans après, 7 ans après avec des gens qui sont instantanément mis à pied par l'entreprise qui n'avait rien à voir avec les où ils travaillent mais qui avait rien à voir avec l'histoire. Bon, c'était excessif et je pense que voilà, il faudra faire la véritable autopsie du truc, mais il y a des vraies victimes. Enfin, là par contre, c'est pas tout ça n'est pas du tout pipeau, hein. C'est il y en a que je connais d'ailleurs. Mais c'est amusant parce que il y a des gens qui avaient été victimes de trolling extrêmement violent mais qui se ne rendaient pas compte qu'il y avait ça derrière, qui eux voyaient juste des
qui pensaient que c'était des cas isolés
pas, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il y avait pas qui eux sentaient pas sentaient tu vois une espèce d'effet de masse qui leur tombait sur le dos sans comprendre qu'il y avait ce petit groupe derrière. Bon, mais c'est intéressant, je pense que ça reste une sorte d'épiphénomène, enfin j'ose l'espérer, mais
symptomatique de...
ce que je veux dire, c'est plus exemplaire de choses qui sont beaucoup plus larges. Et alors là, qu'on retrouve ailleurs, regarde ce qui se passe, tu vois, regarde les forums de jeux vidéo, enfin, tu vois, où t'as des trucs qui partent en flèche, hein, et où tout à coup, des gens se font attaquer, mais même parfois dans le monde réel, se retrouvent avec des mecs qui viennent taper à leur porte, avec des menaces de mort, des menaces de viol, des choses qui sont de moins en moins virtuelles, qui sont plus du tout de l'ordre de la cour de récréation. Il faut rappeler que dans les cours de récréation, quand même, on s'envoyait des trucs qui étaient d'une cruauté absolue, je pense qu'on préfère oublier avec l'âge. Là, c'est pareil, mais quand ça sort de juste un message sur Twitter, là, on tombe dans des trucs vraiment, vraiment dangereux. Moi, j'ai vu l'étude de Microsoft sur leur index de la civilité numérique. Ce qui est amusant, c'est que la France n'est pas si mal placée que ça. Apparemment, c'est en Angleterre que le risque est le moins grand, suivi par les États-Unis et suivi par la France. Et bien loin devant, apparemment, c'est en Amérique du Sud que ça a l'air d'être terrible. Ouais. Mais là, tu posais la question de savoir est-ce que...
Attends, je voudrais quand même demander à Fred, du coup, son avis rapide sur cette histoire de la Ligue du LOL, et puis on avancera sur le net en général.
Bah, la Ligue du LOL, c'est une bonne chose qu'il se soit fait démasquer et qu'il y ait des conséquences sur leur vie professionnelle ou leur vie privée, parce qu'après tout, ils ont brisé des vies, ils ont brisé des carrières, donc... Oh, les pauvres, ils sont mis à pied, dis donc. C'est pour moi, c'est une sanction qui est anecdotique par rapport au mal qu'ils ont causé. Après ça, il faut être bien conscient que la Ligue du LOL, c'est l'arbre qui cache la forêt. D'accord ? La critique ouverte, méchante, mesquine, les insultes, il y a toujours eu. Moi, ça fait 15 ans que je rédige mon blog, et à une époque, j'y avais droit. C'était pas la Ligue du LOL, parce que c'est pas des gens que je fréquente, on n'est pas dans les mêmes sphères professionnelles, mais j'ai toujours connu ça, et ça continue maintenant.
Bah, du coup, ça me donne l'occasion de parler d'une question que j'ai posée aux Patriotes, justement. J'ai demandé aux gens qui financent l'émission, cette question que je vous posais, la toxicité du net est-elle une étape sociétale ou est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque ? Et beaucoup des auditeurs ont répondu, environ la moitié ont répondu non, c'est la boîte de Pandore, on se sentira toujours relativement agressé, il n'y a rien qui puisse changer ça. Donc, bon, plus de la moitié. D'ailleurs, même encore plus que ça, parce que les gens qui répondent oui, on est à peu près 30%, donc on est à 70% de gens qui répondent oui, pardon, je vais reprendre. Les gens qui répondent oui, c'est une étape sociétale et nous apprendrons à les maîtriser, ces outils, et ça ira mieux, on est à peu près à 30%. Les gens qui répondent non, ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps, on est à 70%. Et d'autres personnes ont commenté également des choses qui sont assez intéressantes. PSEB F dit par exemple, ça fait 15 ans qu'on apprivoise l'outil. À un moment, on peut dire que la courbe d'apprentissage est proche du bout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. 15 ans, c'est pas très long pour un changement aussi radical. Tu sembles être d'accord avec moi, Fred, donc je te donne la parole, forcément, pour que tu confirmes.
Complètement. Moi, je serais plus dans la seconde catégorie en pensant que ça va pas forcément aller en s'améliorant.
D'accord. Donc, moi, j'allais dire le contraire, mais vas-y, continue.
Non, tout simplement parce qu'il y a une phase d'apprentissage qui doit se faire. Un être humain, quand il naît, les 20 premières années de sa vie, on lui apprend à se comporter en société, on lui apprend à s'exprimer, donc à structurer sa pensée, à utiliser le bon vocabulaire, à pas insulter les gens, à pas leur couper la parole et ainsi de suite. Donc il va à l'école pour ça. Elle est où l'école de l'Internet ? Il n'y en a pas. Donc chacun apprend sur le tas à s'exprimer comme il veut, comme il peut. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de filtre. Et en plus, on rajoute l'anonymat ou le pseudo-anonymat. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête.
Mais non, moi, je suis d'accord sur le fait. Je pense que c'est pas quelque chose dont on va sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une crise de croissance, c'est pas une crise d'adolescence de la génération née avec l'internet. Je pense que c'est consubstantiel du média. Moi, c'est amusant parce que l'avant internet que j'ai connu un petit peu quand même. Je me souviens par exemple de quand je travaillais dans des magazines de voir le cours. Qui arrivait à la rédaction. Je disais toujours aux gens qui s'offusquaient devant des courriers un peu inflammatoires, pas d'accord, enfin, etc. Je leur dis, faut jamais oublier que le sous-ensemble de la population qui écrit au journal est déjà un sous-ensemble assez particulier. Là, dans la maison qui m'emploie, pendant très longtemps, à TF1, il y avait un accueil téléspectateur téléphonique où les gens appelaient pour donner des commentaires sur les programmes. Lire les verbatims de ces trucs-là était un truc merveilleux, mais là encore, il fallait se souvenir que les gens qui décrochaient leur téléphone pour appeler la télé pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le scénario de la série de la veille, c'était quand même déjà, t'étais déjà dans un sous-ensemble particulier. Donc, t'auras toujours un pourcentage de la population qui pourra avoir des comportements toxiques, j'ai envie de dire. Je pense pas que c'est quelque chose qui va. J'adorerais, ce serait merveilleux que ça change, mais ma confiance dans la bonté de la nature humaine à cette limite-là. Après, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire ou qu'on doit faire ou qu'on peut faire pour le limiter à coup de technologie ou de loi? Il y a déjà plein de choses que la loi fait très bien.
Non, mais moi je crois qu'il y a quand même un aspect apprendre à utiliser l'outil. C'est vrai que ce type de comportement a toujours existé. Beaucoup des gens qui ont répondu au sondage, je crois, ont compris la question comme « Est-ce que les gens vont arrêter de devenir toxiques tout à coup ?» Et ça, effectivement, peut-être que j'ai mal posé la question, mais effectivement, j'y crois pas. Mais par contre, je me demande s'il n'y a pas une phase d'apprentissage, parce que pour une invention ou un type d'interaction qui change... nos interactions de manière aussi drastique que le net, on est encore en train d'apprendre à bien l'appréhender. Il y a, par exemple, je reprends ce commentaire parce que ça m'a beaucoup parlé. J.O.L.R. dit « Moi, je pense que le problème, c'est la visibilité. On ne retient que ce qui est mauvais, ce qui nous choque, etc. » Et la manière dont nous, on appréhende ce qu'on voit... peut changer également. Ça ne veut pas forcément dire que les gens, tout à coup, vont arrêter de devenir toxiques. Même s'il y a un petit peu de ça, je crois qu'on peut se rendre compte de l'impact qu'a ce que nous disons. Comme par exemple, ces fameux membres de la Ligue du LOL, je pense qu'au moins une partie d'entre eux ne se rendait pas compte du mal qu'ils pouvaient faire et de l'aspect néfaste de ce qu'ils considéraient peut-être comme des blagues sans gravité. Ils ne se rendaient pas compte que c'était à ce point. Alors, il y en a d'autres qui étaient effectivement méchants et qui voulaient peut-être faire mal ou qui veulent encore faire mal. Je pense qu'il y en a certains, ou parmi nous, des gens qui ne se rendent pas compte qu'un petit tweet, ça peut, si tu en ajoutes 1000, parce qu'il y a 1000 personnes qui vont s'adresser à une seule personne, et ben ça peut commencer à faire mal. Et donc, avant d'envoyer le tweet, peut-être qu'on va se mettre un petit peu à réfléchir, un petit peu à considérer l'impact de nos actions. Alors bien sûr, pas comme tu parlais, Fred, de l'école, où est l'école d'Internet, effectivement, les jeunes qui grandissent avec Internet, ils apprennent aussi ça. Ils apprennent aussi parce que le bullying passe également par Internet, ça se passe par Instagram, ça se passe par tout ça. Et donc, ça fait partie de leur apprentissage de vivre en société. Donc, évidemment, il y a toujours des gens qui vont apprendre, mais arrivé à 20-25 ans, peut-être que ça ira un petit peu mieux. Et... De l'autre
côté. Oui, mais à ce moment-là, ils seront remplacés par par la génération d'après.
Bien sûr, mais sauf que aujourd'hui, on est tous dans cette phase. L'ensemble du monde est dans cette phase. Et on ne sait pas utiliser Internet et on ne sait pas, par exemple, ça prend énormément de temps d'apprendre à lire les commentaires. Au début, je crois que tous ceux qui ont eu un blog ou eu une chaîne YouTube ou eu quoi que ce soit, on lit les commentaires et on se focalise sur le commentaire négatif au milieu de 100 commentaires positifs. Et ça prend du temps à apprendre à ne plus se focaliser là-dessus. Fred, toi, tu me disais que sur ton blog, tu as eu ce genre de commentaires et ce genre de réactions. J'imagine que la manière dont tu les appréhendes aujourd'hui est différente de ce que tu faisais il y a 10 ans ou au début quand tu as lancé le blog, non ?
Ah bah déjà mécaniquement il y a 10 voire 100 fois moins de commentaires aujourd'hui parce que l'audience est éparpillée sur Twitter, Instagram, YouTube, tout ce que tu veux, oui. Donc il y a beaucoup moins de commentaires. Mais après effectivement on apprend à s'éloigner de la critique, on apprend à apprécier chaque commentaire positif et surtout à faire le tri en se disant ceux qui commentent ne sont qu'une petite partie de l'audience. Et voilà, c'est pas la peine de s'enflammer, pas la peine de se vexer si quelqu'un a un avis un peu tranché. On prend de la distance avec le temps.
Mais je crois qu'il y a un petit peu de ça. Alors, évidemment, c'est possible quand on est un utilisateur de Twitter qui a un public normal, on va dire, entre guillemets. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand on est victime d'une campagne de harcèlement comme on a été victime les personnes oui. qu'on évoquait. Là, je crois qu'effectivement, au contraire, dire « Ah bah il suffit de prendre du recul », c'est plus du tout la même catégorie. Mais dans l'ensemble, pour les gens qui écoutent cette émission, je pense qu'on ouvre Twitter, on a l'impression que le monde est en feu, mais encore une fois, Twitter n'existe que depuis 10 ans. Et 10 ans, bah, on n'est pas un adulte formé avant d'avoir au moins 18-20 ans. Je crois qu'on est encore dans cette phase et que ça risque de prendre encore plus de temps. Bon, je sais pas
oui,
si...
on est dans l'adolescence du web social, en tout cas des médias sociaux, et bah, comme tous les ados ont des idées sombres, en ce moment, l'Internet, c'est vrai que c'est un peu sombre. Il se passe des choses étranges. On a les deux extrêmes. D'un côté, Twitter, qui est pas très gay. De l'autre, TikTok, où c'est que des jeunes beaux qui dansent. Voilà, on fait le grand écart.
Ouais. Et Instagram, c'est pour leurs parents.
C'est ça. bon, Cédric, est-ce que je t'ai convaincu un petit peu ? J'ai l'impression que Fred me rejoint plus ou moins.
Non, parce que le truc, c'est que l'avant-Internet, c'est un peu comme le chômage incompressible. On estime que quand on arrive à 4%, 3%, 2% de chômage, on n'arrivera jamais en dessous parce que voilà, il y a toujours une population qui travaille pas ou qui est entre deux jobs, etc. Ben là, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a une espèce de pourcentage de la population toxique qui, je sais pas quel est le pourcentage, mais qui est incompressible. Et ça, je pense pas que ça changera. Et ces plateformes numériques-là, leur donne une visibilité et une amplification qui est totalement hors de proportion avec leur importance relative dans la population. C'est-à-dire que en plus, il y a peut-être des questions à se poser sur la conception et l'architecture même de ces plateformes. C'est-à-dire que vous parliez des commentaires sur YouTube. Ce qui ressort par défaut dans les commentaires sur YouTube, c'est ceux qui génèrent le plus d'interactions. Or, ce qui génère le plus d'interactions, c'est l'inflammation. Et c'est un problème que Facebook a eu pendant longtemps, où toutes les news qui ressortaient en haut, c'était des conneries sur faut pas vacciner ses enfants et machin, parce qu'évidemment en vrai, enfin en pour ou en contre, ça générait énormément d'interactions. Ouais. Et donc ça pose des questions sur la façon dont les sites sont conçus, parce qu'évidemment eux ils sont faits pour générer le plus d'interactions possible, mais du coup on suramplifie des choses qui ont pas forcément un intérêt général.
Oui, c'est vrai qu'on revient à cet aspect de la gestion du net, et peut-être que ça aussi ça fait partie de cet apprentissage qu'on est en train de faire. Moi, je pense que ça va prendre plus que 15 ans, comme le disait PCBF, ça va prendre plus que 15 ans. Et la vision que tu as, et que, notamment Johan, là encore, il dit « l'être humain est toxique, Internet lui donne le pouvoir d'être toxique plus souvent aux yeux de plus de monde », et ouais. Entre parenthèses, on va tous mourir de toute façon. Mais c'est une vision qui se répète. Je crois que c'est vrai, évidemment. Ouais. Il y a une partie incompressible de la toxicité du net. Fred, vas-y. N'hésite pas à m'interrompre, sinon je m'arrête jamais.
Il ne faut pas être trop poli.
Non, effectivement, je suis d'accord. On se rejoint sur le fait que sur Internet, il n'y a pas de filtre. Et tous ceux qui se connectent aujourd'hui, à savoir quasiment tout le monde en France, ne sont pas forcément préparés à cette absence de filtre.
Mais ça ne veut pas dire que cette incompressible partie de gens toxiques va rester aussi, enfin, sera aussi grande que la partie aujourd'hui qui est toxique. Parce que les gens arrivent, ils sont pas préparés, comme tu le dis, Fred, et donc, naturellement, on va lancer une petite blague ou un petit tweet méchant sans se rendre compte que ça va être pris en pleine gueule plus fort que si on était en face l'un de l'autre. Et à force de s'en prendre nous-mêmes et de voir des histoires sur ces sujets, on va comprendre et on va peut-être, pas tout le monde, mais certains d'entre nous se dire « Bon, ok, je vais pas envoyer ce tweet méchant ou que je vais mettre arranger un petit peu les mots pour que ça soit pas mal pris. » Et ça va pas marcher à tous les coups, mais je crois que ça peut adoucir un petit peu l'effet, quoi.
Complètement, on va y arriver, mais ça prendra plus de temps parce qu'il faudra apprendre sur le tas et qu'il n'y a pas d'école pour nous former de façon accélérée et structurée à la prise de parole et la bienséance en ligne.
Mais c'est ça, il n'y a pas d'école parce qu'on ne sait même pas comment gérer cette bienséance et cette prise de parole et cet adoucissement. Moi, on se moque souvent de moi parce que je dis beaucoup « à mon avis »,« je pense que »,« selon moi ». Et c'est vrai qu'on se moque de ces manières que j'ai d'appréhender les problèmes. Mais c'est aussi pour ça, et c'est aussi parce que j'ai tellement fréquenté Internet que j'ai appris qu'il faut mettre des gants. Et ça peut paraître ridicule de mettre des gants tout le temps, mais je crois que on se rend bien compte. Quand on est dans le siège passager, on se dit « Oh, mais c'est bon, mettre des gants tout le temps, on peut plus rien dire, machin. » Et puis quand on s'en prend un petit peu plein la gueule, on finit par comprendre que mettre des gants, ça peut être utile dans ces situations-là. Et au fur et à mesure que toute la société comprend ça, on va deviser des manières d'apprendre aux gens, d'apprendre aux enfants, d'apprendre à tout le monde et d'apprendre nous-mêmes à gérer ces choses-là de la bonne manière. Je crois que ça va réduire la toxicité.
Bon. Ça va la réduire et en plus, on commence à avoir des outils, notamment les emojis, pour pouvoir donner un peu plus de tonalité. Si on veut être ironique, si on veut être blagueur, on rajoute un emoji à la fin du commentaire ou du tweet. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, on a le traitement algorithmique qui peut arriver pour arriver à filtrer les insultes ou les choses comme ça. Même si les algorithmes ne seront pas traités le second degré et les sarcasmes...
Encore que, on ne sait pas. À un moment, peut-être. Mais c'est vrai que ça aussi, ça peut faire partie de l'apprentissage sociétal. Quand je parle de sociétal, je ne parle pas juste de la personne, de l'individu, de ce qu'il va faire. Peut-être que la société, les entreprises, les algorithmes, etc. vont aussi apprendre à gérer ces problèmes et mieux les traiter. Mais... Bon, bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On n'a toujours pas de réponse, mais j'espère que vous aurez un petit peu de positivité, que vous en retirez tout ça. On a toujours tendance à voir toutes les choses en noir. C'est pour ça aussi qu'on a plus d'impact quand on parle de choses négatives. Mais moi, je pense qu'il y a un petit peu d'espoir, un petit peu de lueur quand même. Bon, deuxième sujet que je voulais traiter, c'est cette annonce de Spotify de leur achat de Gimlet Media, qui est une société de production de podcast qui a été fondée par des anciens
This American
Life, APR. Voilà, merci.
Et This American Life, oui.
Voilà. Donc, qui ont...
NPR, il faut expliquer, hein, c'est la radio publique américaine.
Voilà, qui a un ton très particulier, mais ils font des émissions un petit peu narratives entre journalisme et narration. C'est un petit peu l'école sériale, on va dire. Donc, ils ont racheté cette société de production de podcasts qui produit, je crois, une dizaine, vingtaine d'émissions pour 230 millions de dollars.
Dis-nous, tu as eu des dollars dans les yeux pendant quelques minutes en disant...
Écoute, moi, j'ai toujours dit que pour acheter mes podcasts, combien ? Un petit million, c'est peut-être pas beaucoup. C'est peut-être pas assez.
C'est simple, hein, moi, tu peux faire la règle de 3. Hein. Ils font 60 millions de téléchargements par mois.
60 millions de téléchargements par mois, j'y suis pas tout à fait encore. Hein. Ok, je ferai mon petit calcul et
j'y irai.
Et Anchor, donc, qui est un outil, une app et un site de production de podcasts qui aide les producteurs à faciliter la conception de podcasts. C'est hyper intéressant parce que Spotify s'est redéfini comme une société qui gère de l'audio. Évidemment, il y a une motivation derrière ça qui est que leurs frais dans la musique augmentent avec leur audience. C'est-à-dire que plus ils font écouter de musique, plus ils doivent payer d'argent, puisque c'est un pourcentage aux ayants droit. Et donc, peut-être qu'en produisant des émissions eux-mêmes, ils pourront éviter ça et mettre de la pub dedans ou encourager les gens à s'abonner. Et donc réduire les frais relatifs qu'ils ont par rapport à leurs revenus. Et peut-être également qu'avec Anchor, ils vont aider à ajouter des émissions à leur catalogue. Alors, ils ont déjà des podcasts. Vous pouvez écouter le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Jeu sur Spotify et d'autres, évidemment. ça reste une section un petit peu mal définie de l'outil. Mais moi, la question que ça m'amène, c'est est-ce que Spotify va réussir ce pari que personne n'a réussi jusqu'ici pour tout un tas de raisons, de devenir un petit peu le point central des podcasts? Parce qu'eux, ils ont l'air de s'y mettre pour de bon. Ils ont genre 500 millions de prévus pour ce type d'acquisition et ce type de production. Cédric, toi, tu es un amateur de longue date de podcasts. Qu'est-ce que tu as vu toutes les étapes passées avec tous ceux qui ont essayé et tous ceux qui se sont plantés? Est-ce que tu crois que Spotify peut réussir? Est-ce que ça serait souhaitable même qu'ils réussissent?
C'est intéressant parce qu'en plus, je suis aussi un abonné de Spotify là pour le coup du premier jour. Alors d'abord, il faut qu'ils arrivent à définir ce qu'ils ont envie de faire. De fait, on comprend leur intérêt à diversifier leur source de contenu, d'autant que tu l'as dit, le podcast leur coûte pas plus cher qu'ils fassent 10 millions de vues, enfin 10 millions d'écoutes ou juste 50 000. Évidemment, la crainte, c'est que tout à coup, il y ait toute une série de podcasts de vraiment belle qualité qui tombent dans une espèce de bac à sable fermé, parce que pour écouter Spotify, il faut être abonné. Eux, on dit que non. Hein. A priori, il y aura peut-être quelques produits exclusifs qui seront créés, mais ça, c'est déjà le cas. Je vous recommande un podcast qui s'appelle Crime Town, extraordinaire, que vous trouvez sur Spotify et en partie sur iTunes, et qui raconte l'histoire de villes américaines au travers du crime et tout. Il y a Détroit et Flute et une autre à Rhode Island. Certains des podcasts de Gimlet qui marchent le mieux, eux, ont garanti, ont dit non, mais vous inquiétez pas, on continuera à être un flux RSS sur iTunes et ailleurs, voilà.
Ça, c'est pour les existants. J'imagine que quand ils vont en produire de nouveau pour Spotify, ils risquent d'avoir... Enfin, moi, je pense qu'ils seront exclusifs. Mais...
Exclusif ou pas, mais c'est-à-dire que par exemple, de fait, t'es pas forcé de faire de l'exclusivité. Par contre, tu peux dire que les nouveaux épisodes apparaîtront sur Spotify une semaine avant d'être mis sur le flux RSS. Mmh. Ça se fait. Tu le fais bien sur Patreon. pas avec un décalage d'une semaine. Donc, oui. C'est intéressant parce que ça c'est quelque chose qui je peux pas dire que ça relance l'intérêt dans le podcast parce que le podcast c'est quand même un truc qui cartonne, même si il manque une vue globale du média. C'est-à-dire que ça reste un truc très personnel, où chacun va chercher des trucs dans son coin. Les mesures d'audience pas balbutiantes, mais c'est pas médiamétrie. Et puis la monétisation est un peu aléatoire. Alors la crainte quand même, c'est que il faut se souvenir de la monétisation à la Spotify, qui est quand même de rajouter des spots, un peu comme YouTube rajoute des spots au milieu des clips. Ça, en termes de revenus, c'est pas terrible. On sait bien que les podcasts qui se monétisent le mieux le font avec du sponsoring à l'intérieur du podcast. Donc voilà, ça il faut voir comment ouais, tout ça va
évoluer.
Donc faire
de la pub lue par l'animateur qui va dire.
Exactement.
Est-ce que vous connaissez Squarespace? C'est super.
Voilà. Depuis que j'ai essayé le matelas machin, mais ils sont voilà.
Le matelas donc, Casper, oui, je pourrais vous en citer.
Par exemple. Voilà.
Mais du coup.
Vas-y.
Non, je voulais passer la parole à Fred parce que le marketing, c'est un petit peu son dada. C'est hyper dur à monétiser le podcast. Est-ce que tu crois que Spotify peut y arriver et peut du coup peut-être même créer un écosystème un petit peu plus sain pour les créateurs de podcasts, si tant est que la monétisation par la pub soit saine? Enfin, en même temps, il y a l'abonnement aussi, donc je ne sais pas, c'est tellement compliqué, on a tellement peu de métriques sur le podcast, est-ce que c'est possible?
Bien sûr, le podcast est un contenu comme un autre. On a aujourd'hui les exemples du contenu textuel, donc les blogs. On a l'exemple du contenu vidéo avec YouTube. Le rachat de ces deux sociétés annoncées la même semaine est un très bon signal. Je pense que Spotify a la capacité à entraîner dans son sillage les deux mastodontes que sont Google et Apple pour pouvoir leur dire, on se met autour de la table et on décide de formats publicitaires communs. Éventuellement, on fait en sorte que nos régies publicitaires puissent dialoguer entre elles et qu'on puisse créer des plateformes publicitaires avec les mêmes normes. Faire le travail de l'IAB, en fait, tout simplement.
L'IAB, oui, il faut expliquer, hein, c'est l'organisation qui rassemble tous les gens qui distribuent de la publicité sur Internet. Bon, l'idée là suppose quand même d'arriver à se mettre autour d'une table avec Apple et à signer un accord. Enfin, bon. Surtout qu'évidemment, malgré tout, quand on dit Spotify est numéro 2 du podcast dans le monde, ouais, enfin, ils sont numéro 2 extrêmement loin derrière iTunes, même si iTunes, c'est uniquement un index. iTunes n'héberge pas de podcast, enfin, etc. Mais ça reste la plateforme dominante, ne serait-ce que parce que Google a fait son appli podcast finalement assez assez récemment.
C'est vrai que il faut expliquer aussi que le podcast est très éclaté. Ceux qui écoutent depuis un moment le savent, mais c'est vraiment une technologie qui est hyper ouverte. Je fais parfois cette comparaison, c'est comme le mail. N'importe qui peut faire son client mail, n'importe qui peut créer un serveur mail. Là, c'est un petit peu pareil. N'importe qui peut créer en fait son application de lecture de podcast. N'importe qui peut publier un podcast où il veut, où elle veut, etc. Donc, il y a pas, et cette centralisation est un avantage et un défaut. Et Spotify pourrait centraliser les choses et du coup amener les avantages et les défauts de la centralisation, à moins peut-être qu'ils utilisent ça comme leur précaré et laissent l'ouverture sur le reste de l'écosystème des podcasts, je ne sais pas.
Pourquoi pas dire deux mots d'ailleurs de l'autre acquisition qui est celle de Anchor. Mmh. Anchor, il faut expliquer, c'est une plateforme et une appli qui simplifie dramatiquement la création et la mise en ligne d'un podcast. Parce qu'évidemment, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Faire un podcast à la main, ça prend quand même beaucoup de travail, hein. Faut le faire, l'enregistrer, le mixer, le machin, faire ton MP3 qui est propre, et puis après il va falloir créer ton flux RSS, l'alimenter, mettre les bons tags et le reste. Là, l'idée c'est d'avoir une appli qui le fait aussi simplement. En gros, on est face à quelque chose qui pourrait être le YouTube de l'audio, c'est-à-dire
ou le WordPress, c'est-à-dire
un truc où t'as pas besoin de coder des trucs à la main, voilà. Et du coup, c'est si c'est ça la cohérence de l'idée de Spotify, c'est intéressant parce que tout à coup, ils vont aussi s'ouvrir à plein de nouvelles formes de podcasts, peut-être plus amateurs. Mais et puis après, on verra ce qui colle et ce qui surnage. Mais ça veut dire que de fait, ils ont une idée assez claire de la monétisation de ce qui va se passer derrière.
Bon. À voir. En tout cas, c'est vrai qu'on arrive peut-être à un tournant dans cette évolution constante mais lente que je décris toujours de cette manière. Les podcasts, c'est contrairement aux autres technologies de l'informatique, ça a été constant et très lent, mais ça s'est jamais arrêté. Et là, peut-être qu'on arrive à, parce que Spotify a besoin d'un autre type de contenu, à un moment où ça pourrait donner quelque chose d'autre. Bon, pour ma part, ce dont je suis à peu près certain, c'est que je continuerai à faire mes podcasts de cette manière et vous continuerez à les avoir absolument partout, donc il n'y a pas de souci.
Ça, c'est ce que tu dis aujourd'hui, tant que ton téléphone sonne.
C'est ça, si, disons que j'ai dit, hein, j'ai un prix, 1 million. Ouais, peut-être 1 million, ça dépend. Après les impôts, il reste quoi? Alors, Macron laisse beaucoup d'argent aux riches, c'est ça, sur 1 million, donc je ne dois pas payer beaucoup. Ok, pas de problème, 1 million, ça va.
Tu détiens depuis très longtemps, donc je pense que tes plus-values ne seront pas très imposées. Une dernière chose quand même, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Spotify arrive à faire pour le podcast qu'il est arrivé à faire pour la musique. Mmh. Moi, ce qui a changé dans ma vie grâce à Spotify, c'est que je découvre de nouvelles choses que je ne connaissais pas, mais qui vont très bien dans mes goûts. Tu sais, Spotify te fait, par exemple, ta nouvelle playlist hebdomadaire avec des choses que tu vas découvrir, mais qui sont dans les goûts de ce que t'écoutais déjà. Et l'un des gros problèmes du podcast, c'est, j'aime pas trop ce mot, c'est la découvrabilité. C'est la capacité de découvrir de nouvelles choses qui vont te plaire. Moi, je suis abonné, du coup, à des newsletters sur le podcast, etc., etc. Je suis toujours ravi de découvrir des nouvelles choses. Mais c'est pas évident, et au travers des outils existants, c'est un peu comme l'App Store.
C'est presque impossible.
Tu vois les 10 premières apps, celles qui sont après le top 50, tu les vois jamais. Mmh. Et là, si Spotify arrive à faire ça et arrive à me dire tous les mois, vous savez, vous écoutez ça, ça et ça, je pense que ça devrait vous plaire. Bah ça, c'est vachement intéressant, parce que tout à coup, tu vas arriver à pousser en avant des contenus qui seront pas juste mis en lumière au travers du marketing.
Bon, faisons une toute petite pause. Je voudrais vous parler de ce refresh du Patreon. Il y a plein de choses que j'ajoute dans le Patreon et je vous encourage à aller regarder de quoi il s'agit. Mais une chose que je voudrais mettre en valeur, c'est justement, on parlait de communauté, de toxicité. Eh ben, j'ajoute un nouveau niveau de récompense à $2 au lieu de 3. À $2, vous avez accès désormais au Slack des Patriotes, dont je parle régulièrement dans l'émission, parce que c'est vraiment un endroit tellement sympathique, bienveillant. C'est des gens qui constituent en fait mon refuge quand j'en ai marre de Twitter, parce qu'il y a énormément de qualité.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur Twitter, Facebook et Instagram, etc. On a beaucoup de choses à en tirer. Mais quand je commence à être fatigué, j'ai le plaisir de pouvoir arriver sur le Slack où il y a des gens cool, sympas, qui sont des gens dont je sais qu'ils ont cet esprit que j'essaye de véhiculer avec l'émission justement de bienveillance et de positivisme. Et on peut parler de tech, de jeux, de films, de séries. C'est vraiment super agréable. Et donc, je me disais, il faut que j'étende un petit peu cet accès. Et donc, à $2 aujourd'hui, $2 par épisode, vous pouvez avoir accès à ce Slack. Et on a même, je crée des chaînes qui sont prévues pour les gens qui n'ont pas énormément de temps. Vous n'avez peut-être pas le temps de suivre toutes les conversations, mais il y a des choses comme une chaîne où on ne peut mettre qu'un seul message par jour chacun. Alors, il faut s'autodiscipliner, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'est presque une expérience sociale. Mais du coup, si vous passez une fois par jour, vous pouvez voir ce qui se passe là-bas. Des chaînes avec des liens, par exemple. Ça peut vous faire une sorte de mini Reddit organisé. Il y a des trucs très sympas. Je vous encourage à regarder ça. Je vous encourage à aller voir les autres récompenses qui sont toutes orientées vers la communauté. Vraiment, l'interaction dans la communauté. Le fait d'être avec des gens dont on sait qu'ils ne vont pas nous agresser et être toxiques. Donc, c'est vraiment l'idée que on a fait le Patreon il y a 5 ans. Ça fait déjà 5 ans que j'ai lancé le Patreon. Et c'était quelque chose de bizarre, de presque impossible sur Internet, le fait que les gens payent pour un contenu qu'ils appréciaient. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec la communauté. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer. J'espère que ça vous intéressera. Voyez ce niveau de récompense à $2. Alors, évidemment, c'est toujours des bonus, des petits bonus que vous allez avoir pour la satisfaction de soutenir l'émission. Donc, choisissez un niveau de récompense qui correspond au fait que vous puissiez soutenir, je sais pas, 3-4 épisodes, hein, quand même, si vous pouvez, hein, si vous en avez les moyens. Mais si vous êtes intéressé par l'idée de soutenir l'émission, allez regarder ça, et en particulier le niveau du Slack. Je crois que ça pourrait vous intéresser, et on y passe vraiment des moments privilégiés, je dirais. C'est un truc que j'ai découvert, moi, c'est les bienfaits de cette communauté.
En fait, je pense que tu as trouvé la solution à la toxicité sur Internet, c'est qu'il faut payer pour rentrer.
Écoute, il y a peut-être un peu de ça.
Non, mais c'est vrai, tu crées un filtre. Il n'est pas très cher, le filtre. Mais bon, alors évidemment, attention, le retour de bâton de ça, c'est les gens qui disent « j'ai payé, je fais ce que je veux
». Non, mais moi, ça, les gens savent bien.
C'est notamment le filtre qui est utilisé dans les applications de rencontres, de dating.
C'est vrai.
Ouais.
Je dirais juste
parfois
le fait
c'est
que...
symbolique, mais ça fait fuir les touristes.
C'est pas faux. Je pense qu'il y a aussi un autre filtre qui est le type de personnes qui vont écouter ce type d'émission et qui vont adhérer à ma personnalité. Je crois qu'il y a vraiment un petit peu de ça. Tu sais, je pense aux youtubeurs qui sont toujours énervés. J'en parle souvent dans l'émission et dans d'autres émissions. Il y a des gens qui
c'est
sont
génial
énervés
de regarder
et qui vivent sur la controverse.
Des vidéos YouTube génial de regarder les vignettes des vidéos YouTube de youtubeurs, parce qu'à chaque fois, c'est un visage avec une espèce d'émotion extrêmement prononcée. Tu vois, genre, j'ai découvert le nouveau Huawei. Tu vois, bon, ok, d'accord.
Tout à fait. Et il y a une catégorie de youtubeurs qui sont les gens énervés. Et ils sont énervés tout le temps. Ils cherchent les scandales, ils cherchent la merde, ils cherchent les trucs. Alors évidemment, ça fait plein de vues tout de suite, ça, parce que justement, on réagit aux trucs qui sont faciles, quoi. Mais quand on est un petit peu plus mesuré, on se moque encore de moi, je suis tout le temps en train de dire il faut être mesuré, il faut prendre du recul, il faut machin. Ça, c'est plus long, c'est plus lent, c'est peut-être plus adapté au podcast. Mais au final, les gens qui constituent cette communauté, les gens qui sont qui cherchent de l'énerver, ils restent pas longtemps. Les gens qui restent, les gens qui constituent la communauté, c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus mesurés, justement un petit peu plus cool. Et ça se confirme vraiment dans l'expérience que j'ai eue dans Slack. Et bon, bref, c'est vraiment ça, tout est lié dans toute cette histoire. C'est pas juste pour faire la promo du truc, mais bon, si vous voulez aller voir un petit peu les nouvelles récompenses, vous pouvez le faire aussi. Patreon.com/rdvtech. Parlons un petit peu de la zigounette de Jeff Bezos, tiens, par exemple. J'étais vous savez quoi, j'étais même pas sûr que je voulais en parler parce que je suis pas sûr que ça soit un sujet tech. Il a publié sur Medium un article dénonçant le chantage que lui fait subir une grosse publication américaine en disant bah, si vous voulez publier les photos de moi que vous avez, allez-y, je céderai pas à votre chantage, je ne dirai pas ce que vous vouliez que je dise, c'est-à-dire que vous êtes complètement impartiaux et votre soutien à Donald Trump est impartial, etc. Est-ce que c'est un sujet tech ou pas?
C'est un sujet tech parce que c'est Jeff Bezos.
C'est ça, mais du coup...
Donc, et puis, c'est un sujet très média, là, pour le coup. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut expliquer le truc. Hein. AMI, donc l'éditeur du National Enquirer, qui est quand même le tabloïd le plus fameux des États-Unis, qui font ça et de la presse People, le patron d'AMI, on le sait, est dans la poche de Donald Trump. C'est lui qui, par exemple, est allé acheter les témoignages de jeunes femmes qui expliquaient avoir eu des affaires, on dit pas des affaires en français, enfin des aventures d'un soir avec Trump. En gros, il allait acheter leurs témoignages en exclusivité, et puis après, il le publiait pas, ce qui était une façon de le mettre à la poubelle. Et là, apparemment, ils ont essayé de faire chanter Bezos, parce qu'évidemment, on sait, Bezos est en train de divorcer, il a une histoire avec une animatrice télé, et apparemment, ils se sont échangés des SMS et des photos enflammées, et en gros, ils lui disent, voilà, nous, on a les photos.
On ne sait pas comment ils les ont récupérées, d'ailleurs, mais...
Oui, il y a des questions là-dessus, évidemment. On ne les publiera pas, à condition que le Washington Post, qui appartient à Jeff Bezos, arrête ses enquêtes, qui nous implique dans les histoires de Trump et la Russie. Je vous la fais très rapide. Hein. Et le truc, c'est que, bah voilà, ils connaissent pas Raoul, quoi. C'est-à-dire que Jeff Bezos, il a dit, mec, je suis le mec le plus riche du monde, donc je vais t'écraser comme un cafard. Et surtout, il a refusé le chantage, et il a refusé le chantage extrêmement publiquement, en publiant les emails. Et les emails sont incroyables. C'est-à-dire que quand t'as le patron du juridique d'un éditeur qui t'écrit noir sur blanc qu'il faut pas que ton journal publie, enfin, des trucs de fou. Pourquoi? Enfin, ils sont complètement crétins à écrire un truc pareil.
Mais
dans
ils ont
un...
tellement l'habitude que les gens cèdent, je pense, exactement, à leur puissance, qu'ils se sont dit, ils ont pas fait attention, justement, au fait que Bezos, comme tu le dis, c'est l'homme le plus riche du monde.
C'est pas un politique, c'est-à-dire que du coup, beaucoup de gens se posent des questions sur certains politiques américains, surtout de côté républicain, qui n'osent pas dire du mal de Donald Trump, en tout cas publiquement. Et tout à coup, les gens se disent, mais qu'est-ce que le National Enquirer a sur leur compte pour qu'ils ferment leur gueule de manière absolument chronique? Et donc voilà, donc Bezos a tout publié, il a dit, vous publiez les photos si vous voulez, mais moi je céderai pas au champ. Il a tout mis en public. Il y a une commission d'enquête sénatoriale, il y a une procédure au département de la justice, il y a, parce qu'évidemment, tout ça est insupportable. Donc, c'est peut-être la fin du National Enquirer.
Bon, donc voilà, on vous laissera juger si c'est une affaire tech ou pas. Tous les podcasteurs tech que j'écoute se sont posé la même question, mais bon, au moins vous savez de quoi il s'agit.
Moi, j'attends le film.
ça sera intéressant.
Ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est d'une part la responsabilité d'un grand média américain, mais bon, je pense que là-dessus tout a été dit. Ce que je trouve également ahurissant, moi, c'est la réaction de certains qui disent, mais bien fait pour Jeff Bezos, lui qui fournit des technologies de surveillance à l'armée et à la NSA, bien fait pour lui. Mmh. Et là, quelque part, je fais le parallèle avec cette histoire de leak du LOL et d'absence de filtre.
Tout se rejoint.
Tout se rejoint. Effectivement, ce genre de réaction, vous la faites dans votre tête ou en privé, mais vous ne l'écrivez pas dans un article ou dans un tweet. On ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un, c'est pas possible.
Oui, c'est sûr que il y a comme toujours des réactions un petit peu, et surtout que là, ça vient du côté, évidemment qu'Amazon est critiquable, évidemment qu'il y a des choses au-delà même de ces histoires de surveillance et de travail avec l'armée américaine. Il y a
Amazon
des choses
est critiquable,
qui sont évidemment critiquables.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Thales? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit des fabricants de munitions ou de missiles? Enfin,
non, moi, je pensais aux conditions de travail des travailleurs d'Amazon. Donc, il y a d'autres choses peut-être qui contribuent à l'antipathie que certains ont pour le personnage de Bezos. Mais bon, c'est vrai que là, ensuite, il y a une certaine mesure encore. On y revient à avoir dans ce genre de cas, quoi. Justement, en parlant d'Amazon, ils ont lancé un site de streaming qui s'appelle Amazon Live, qui est une sorte et un outil de création de streaming live, Amazon Live Creator en application notamment. En fait, c'est une sorte de téléachat, je crois. Fred, toi qui es un spécialiste du marketing, qu'est-ce que va chercher Amazon là-dedans? Je suis pas 100% sûr de ce qu'ils veulent.
Ah bah alors écoute, moi je veux bien avouer que je n'y comprends plus rien.
C'est vrai.
Pourquoi Amazon, qui est une des entreprises les plus innovantes en matière de médias ou de commerce, reproduit un modèle qui est très ancien, celui du téléachat? Je ne sais pas. Si
mais
ça se trouve, ça va
clients,
marcher,
hein.
J'en sais rien. Je veux bien reconnaître que je ne comprends plus rien.
Le truc, c'est que, mine de rien, il y a encore toute une génération qui regarde la télé et qui regarde le téléachat s'il existe encore ou qui est nostalgique du téléachat. Peut-être que c'est à eux que ça s'adresse et que justement Amazon désormais a une telle portée que ces gens-là sont beaucoup plus prompts à justement regarder une vidéo d'un monsieur qui coupe une canette de bière vide avec son couteau Super Ginzu, ça rappellera des souvenirs à certains, que bah, de naviguer sur la page où les dizaines de produits vont s'afficher les uns après les autres, quoi.
Ou alors, tout simplement, c'est Amazon qui réfléchit à qui sont ses concurrents aujourd'hui. Son concurrent sur la vidéo, c'est YouTube, sur lequel on retrouve beaucoup, beaucoup de vidéos de déballage de produits ou d'essais de tests de produits.
C'est vrai.
Ils disent, ouais. Bah, on va arriver avec une solution différente pour les annonceurs. Ce sont les marques qui vont faire leurs propres vidéos en live. Et voilà, donc c'est... Peut-être que quelque part, c'est une offre concurrente à ce qu'on trouve sur YouTube.
C'est vrai, ou même un début de ce type d'offre qui pourra croître ensuite, comme l'a souvent fait Amazon. Pardon, Cédric.
Non, je t'en prie, c'est pas la première fois. Je crois qu'ils avaient tenté quelque chose déjà il y a un ou deux ans qui était très, là, pour le coup, téléachat pur et simple, et pas un truc opéré par les marques. C'est peut-être aussi le besoin d'avoir une sorte de vitrine. Parce que quand tu arrives sur Amazon, qu'est-ce qu'on te montre? Bah, en gros, on te montre des choses qui sont liées aux achats que tu as déjà fait. Ce qui est toujours rigolo, parce que tu vois, t'achètes, je sais pas, un pied d'appareil photo et pendant trois mois après, à chaque fois que tu vas, on te propose d'en acheter un autre.
De 70
c'est complètement
pieds,
con. C'est complètement idiot parce que contrairement au reste du web qui ne sait pas forcément ce que t'as acheté ou pas et qui peut essayer de te rediriger vers la paire de chaussures que tu as déjà, Amazon, eux, ils savent. Ils savent même à quelle heure t'as été livré.
Mais, ça ferait du bon contenu pour la page d'accueil ou les pages catégories, tout à fait.
Voilà, et tout à coup, ça permet de mettre en lumière des choses qui peut-être que tu n'aurais pas vues autrement parce qu'elles ne sont pas dans ton univers de shopping habituel. Donc, et puis d'animer cette page, parce que c'est vrai que c'est amusant de voir des gens qui découvrent Amazon. Ça, ils sont rares maintenant, hein. Mais les gens te disent, mais c'est moche. Et c'est vrai, la page d'accueil d'Amazon, c'est pas quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très utilitaire. C'est un peu à la japonaise, toi tu connais ça, Patrick, mais où on essaie de te montrer le plus d'informations en même temps.
Ouais.
Mais c'est pas quelque chose que t'as plaisir à aller compulser. Enfin si, quand tu cherches quelque chose, bien sûr. Donc tout à coup, ouais.
C'est pas un truc que
vidéo,
tu vas aller voir pour regarder quelque chose. C'est que vraiment,
non.
Tu vas aller chercher un truc spécifique.
Ça renforce l'idée selon laquelle, à n'importe quel moment de la journée, il se passe quelque chose sur la homepage.
Mmh. C'est marrant, en ce moment, donc c'est sur l'adresse c'est amazon.com/live, en ce moment ils sont en train de montrer des protections pour les téléphones, des coques de protection pour téléphone, donc ça colle complètement avec ce que tu disais, Fred.
Peut-être qu'ils ne les montrent qu'à toi.
Je crois que c'est une seule page, mais oui, peut-être.
Ouais. Non, je plaisante, c'est la même chose.
Facebook va changer un des types d'informations qu'ils vont donner aux gens qui voient des pubs. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un moyen de donner plus d'informations sur les raisons pour lesquelles on voit telle ou telle pub. Et en fait, ça nous donne des informations sur notre profil, finalement. Peut-être qu'on peut détailler la chose, mais je donne la parole à Fred encore, qui est le spécialiste du sujet. Pourquoi, comment, quoi ? Dis-nous tout.
C'est une très très bonne chose que Facebook décide de faire ça, parce que ça va apporter de la transparence dans les pratiques publicitaires, dans lesquelles il y a eu une dérive évidente, avec un trafic de données sur les utilisateurs qui a été fait de façon complètement éhontée. Donc le fait d'exposer quelles informations et qui les a collectées, ça va participer à un assainissement naturel. Donc moi, je le vois d'un très très bon œil.
Je vais expliquer exactement de quoi il s'agit, c'est-à-dire que quand vous allez voir une pub sur Facebook, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes déjà ou si ça va arriver bientôt, vous pouvez cliquer sur le petit, la petite icône d'information et vous voyez des détails sur le type de ciblage. Donc, ça va dire « telle société cherche à toucher des gens entre tel et tel âge qui vivent dans telle région du pays et c'est pour ça que vous avez été le ciblé, donc vous comprenez que vous faites partie de, ce, de cette cible pour telle et telle raison. »
Je pense et surtout, oui, qui a collecté qui a collecté cette information? Et c'est ça le plus important.
Ouais. Donc c'est soit Facebook, soit ses partenaires, et vous avez toutes les informations là-dessus, effectivement.
Ah bah là, en l'occurrence, c'est, ils veulent pointer du doigt les partenaires.
Ouais. C'est évident. C'est pas nous. Mais du coup... je me demande si c'est pas aussi quelque part un moyen de se dédouaner. Parce qu'à force de donner toutes les informations, d'ailleurs Facebook, Google le fait peut-être un petit peu mieux que Facebook encore. Parce que si vous allez sur Google, sur le dashboard Google, vous serez peut-être surpris de voir à quel point Google a énormément d'informations et quel type d'informations. Mais c'est déjà hyper public. Sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué à voir. Là, quand on a autant de détails, c'est un petit peu, bon bah vous savez quoi. Vous savez ce qu'on sait sur vous, vous savez pourquoi vous voyez les pubs. Après, c'est à vous de faire votre choix, vous êtes grand. Et donc, se dire, bah voilà, c'est pas une boîte mystérieuse dont on ne sait rien, c'est, vous connaissez déjà tout, donc, soit vous utilisez, soit vous n'utilisez pas, mais si vous utilisez, eh bah, vous n'avez plus rien à dire. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi. Non, tu crois pas ?
Je l'anticipe plutôt comme exposer les pratiques des autres.
D'accord.
Là, à mon avis, le but de Facebook, c'est de dire, mais je ne suis pas le grand Satan, ce sont des pratiques qui sont normalisées et institutionnalisées, la preuve, regardez. Donc ouais, moi, je ne fais pas pire que les autres.
C'est intéressant comme vision, effectivement, ouais. Il y a une journaliste de Gizmodo qui s'appelle Kashmir Hill, qui a essayé de vivre une semaine sans les GAFA. Et quand je dis sans les GAFA, c'est enfin les GAFAM plutôt. Quand je dis sans les GAFAM, c'est vraiment en n'utilisant aucun service d'aucune de ces cinq sociétés. C'est très intéressant de voir à quel point ça a été difficile parce qu'il y a plein de choses dont on se doute déjà, qu'on sait déjà, mais il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme par exemple Amazon, encore eux, à quel point ils sont omniprésents avec leur Amazon Web Services qui fournit l'infrastructure du web. C'est-à-dire qu'elle a été loin. C'est juste que c'est pas juste qu'elle a dit je veux pas utiliser Facebook ou je veux pas utiliser Google. Elle a dit je veux pas utiliser de services comme Dropbox qui utilise un service dont Amazon est propriétaire. Donc en l'occurrence AWS. Comment envoyer un fichier à quelqu'un? Si on ne peut pas utiliser, si on peut utiliser aucun des services de ces cinq sociétés, alors franchement, je vous laisse essayer, c'est tout simplement quasiment impossible. Donc c'est un petit peu extrême d'aller jusqu'à ne pas utiliser les services qui sont propriétés de ces sociétés, et pas juste le front-facing en fait, ce dont on connaît. Mais Fred, tu m'as dit que tu avais été touché par cette,
par cette histoire. Là, enfin, on a une réflexion intéressante sur la... pas forcément sur la dépendance qu'on nourrit par rapport aux GAFAM, mais sur le fait qu'ils nous simplifient la vie au quotidien, et ça, on l'a oublié. Mmh. On est aujourd'hui dans une séquence où ils nous sont présentés comme les grands ennemis. Ils sont là pour revendre nos données personnelles, ils sont là pour nous saucissonner, pour extraire le moindre dollar ou euro de notre poche, mais non, ils nous ont...
Ce qui n'est pas forcément incompatible. Hein.
Simplifier. Non, ce n'est pas incompatible, on peut faire les deux. Des services tout bêtes comme les Amazon Web Services, ou même les Microsoft Cloud, le Gmail de Google, le Android, même tout ce que propose Apple ou tout ce que propose Facebook, WhatsApp et ainsi de suite, enfin, ça nous simplifie la vie au quotidien. Si on nous retire tous ces services, on est sacrément emmerdé quand même. Ça, faut pas l'oublier, et ils
là,
sont très très peu à dire.
Elle l'a prouvé effectivement, mais je pense pas qu'elle avait vision aussi positive que toi. J'aurais un petit truc à ajouter. Cédric, toi, est-ce que tu as un commentaire sur la chose ou...
Non, c'est intéressant parce que j'ai vu le papier. Ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment, tu peux te dire à la base, bon, ok, alors pendant X temps, je vais pas aller sur Amazon, je vais pas allumer mon iPhone, et puis je vais pas aller sur les services de Google. Mais en fait, ce qu'elle a fait faire, c'est qu'apparemment, elle a un ami qui lui a installé un bloqueur, mais qui a bloqué tous les domaines, les IP, etc. Et du coup, coup, elle s'est aperçue que, par exemple, elle voulait aller chercher un fichier sur Dropbox. Ah bah non, pas possible, parce qu'il y avait une partie de Dropbox qui utilisait le Google Cloud, je crois, pour valider l'identité.
C'est AWS, ouais, je disais.
Voilà, c'est AWS. Et tout à coup, si tu t'interdis même les services, alors je veux dire, si tu t'interdis tous les services qu'utilise AWS, c'est-à-dire Amazon Web Service, tout à coup, l'Internet va se rétrécir devant. C'est Google Cloud un peu pareil. Et c'est intéressant parce que de fait, ça donne une espèce d'instantané de l'étendue de la puissance de ces services-là. Mais bon, au quotidien, moi, je ne saurais pas faire. C'est juste pas possible. Je peux imaginer, c'est... ok, d'accord, je mets l'iPhone dans un tiroir pendant un mois, mais je mets quoi ? Je sors quoi à la place ?
Bah, c'est ça
pas d'Android non plus. C'est difficile.
C'est sûr. Et c'est là que je voulais, moi, en venir. C'est que finalement, effectivement, tous ces services y sont rendus. Je pense qu'on a, comme tu le disais, Fred, un petit peu tendance à les oublier parfois dans notre invective contre ces sociétés, c'est vrai. Mais, alors, il y a quelques-unes d'entre elles qu'on peut ne pas utiliser. Apple, bon, effectivement, on range l'iPhone, à moins qu'on ait un Mac et qu'on soit, qu'on puisse pas utiliser un PC. Bon, Apple, c'est possible. Facebook, on arrête d'utiliser Facebook, on arrête d'utiliser Instagram, on arrête d'utiliser WhatsApp. Ok, c'est compliqué, mais c'est possible. Google, tout de suite, ça devient plus dur parce qu'il y a le Google Cloud et il y a encore plus de services qui nous rendent encore plus de services, je dirais. Microsoft, ils sont aussi dans l'infrastructure et Amazon, AWS est tellement énorme que pour le coup. Et du coup, le problème pour moi, c'est que tellement de pouvoir, finalement, là on parle des GAFAM, mais en réalité c'est les AGM, c'est Amazon, Google ou les GAM. Voilà, c'est Google, Amazon et Microsoft qui concentrent en trois sociétés tellement de pouvoir que ça peut devenir préoccupant avec cette question d'infrastructure et de services qu'utilisent toutes les autres sociétés. Donc il y a une question qui n'est pas encore monopolistique, mais qui est inquiétante parce qu'elle est peut-être trop concentrée. C'est ça qui m'a sauté aux yeux, moi. Bon, continuons à avancer. Vous vous souvenez de l'article 13 et de l'article 11 de la nouvelle loi sur le droit d'auteur. Ils avaient été une cause de discorde entre les différents pays de l'Union européenne. Alors, ils ont retrouvé un accord. Aujourd'hui, en particulier l'article 13, qui nécessite je confonds toujours l'article 12 et l'article 13. Oui, c'est la question du fait de payer pour mettre des liens sur l'upload filter, le fait de filtrer tout le contenu qui est déposé sur votre plateforme. Eh bien, ils ont trouvé un accord. Toutes les sociétés du monde, enfin, qui opèrent en Europe, devront avoir un filtre de téléchargement, un filtre d'upload pour détecter le contenu copyrighté qui est proposé sur leur plateforme et donc le bloquer, sauf si ils ont moins de 3 ans ou un revenu de moins de 10 millions d'euros ou moins de 5 millions d'utilisateurs uniques mensuels. S'ils dépassent dans l'une de ces catégories, eh bien ils devront activer ce filtre et mettre en place ce filtre à contenu. On a déjà parlé de l'article 13 et de l'article 11 d'ailleurs, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que il y a le retour du vote, ils ont trouvé un accord et le vote est de retour dans les tuyaux, donc ça va continuer à suivre son cours dans les instances européennes. Bon, je crois qu'on a déjà parlé de ces deux articles, donc on a tout dit. Rapidement, Twitter va arrêter de parler de ses utilisateurs mensuels pour ne parler que de ses utilisateurs quotidiens. Alors Twitter, ils sont en stagnation depuis des années. Ils n'arrivent pas à augmenter leur nombre d'utilisateurs. On est autour de 320 millions d'utilisateurs mensuels. Ils n'arrivent pas à aller au-dessus, sachant que sur des services comme Instagram ou d'autres, on est bien au-dessus du milliard. Bon, Twitter, c'est marrant de voir Twitter parce qu'il n'arrive pas à grossir et pourtant, il reste le pouls de toute la vie du net, quoi. C'est là que tout le monde va et que tout le monde récupère ses informations en instantané. Et pourtant, il n'y a, entre guillemets, que 300 millions d'utilisateurs. C'est un paradoxe étrange, je trouve.
Mais oui, mais si ça suffit. Peut-être que Twitter a trouvé sa vitesse de croisière, qui est aux alentours d'un petit peu plus de 300 millions. Et si la plateforme fonctionne comme ça, tant mieux.
Ah ben les actionnaires ne l'entendent pas de cette oreille, hein. C'est ça le problème.
Certes, le problème, c'est que plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez de pollution et de cacophonie.
Mmh. Oui, là, je crois qu'à 300 millions, ça serait difficile d'imaginer. Imaginez si à 1 milliard, la cacophonie serait encore plus grande. Je crois que ce n'est pas forcément souhaitable, effectivement.
Et il y aurait encore plus de haters et ainsi de suite. Ouais. C'est évident.
C'est vrai. Les prochains écouteurs de Samsung, les écouteurs sans fil, pourraient se charger au dos du téléphone. Ça pourrait être pas mal. On sait que les AirPods d'Apple sont devenus un phénomène de société. Je viens de voir un article qui a analysé les recherches sur les AirPods et ça a explosé cette saison de Noël. C'est vraiment un phénomène incroyable. Moi, j'en parle depuis que je les ai eus en disant que c'est la meilleure invention qu'a fait Apple de ces dernières années. On se dit, les écouteurs, c'est ridicule, ça sert à rien. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est utile. La popularité monte et d'autres ont suivi le mouvement. Et Samsung, la dernière innovation, ça serait de pouvoir les recharger au dos du smartphone. Pourquoi pas, moi je dis, autant que la caisse de rangement, le petit étui de rangement soit suffisamment bon pour ne pas avoir besoin de recharger sur le smartphone. Mais bon, pourquoi pas ? Si besoin, à un moment, on a une urgence.
Mais il y a déjà un smartphone, c'est quoi ? C'est OnePlus, hein, qui permet de recharger un autre smartphone directement sans contact. Oui. Il colle l'un à l'autre et ça y est. Alors, c'est un peu gadget, mais, mais au moins, c'est une feature c'est une fonction qui est très parlante graphiquement. Et là, oui, bien sûr, parce que tout à coup, les 3 ou 4 000 mAh de la batterie de ton smartphone vont pouvoir recharger je ne connais pas la capacité, mais ça va quand même pas très très loin. Donc, ouais, très bien.
Comme le disait l'article de iPhone.fr, c'est vrai qu'on a déjà l'iPad qui recharge le stylet de l'iPad Pro. Donc pourquoi pas ? C'est vrai que ça pourrait être une tendance intéressante. Il y a un chercheur en sécurité qui a trouvé une faille assez importante sur macOS et qui a décidé de ne pas en informer des détails parce que Apple ne propose pas de bug bounty sur macOS. On parlait à l'épisode précédent de l'importance des bug bounty. C'est marrant de voir qu'ils n'en ont pas sur macOS, c'est surprenant. Et il y a un chercheur qui a une faille hyper importante et a dit, tant pis pour vous, je ne vous la donne pas parce qu'il n'y a pas de bug bounty et il en faudrait un. Bon, c'est bien d'avoir des activistes comme ça qui font bouger.
C'est bien de le dire parce qu'en plus, Apple, ils font des sacrés bénéfices quand même. Ils pourraient partager un minimum.
Un tout petit peu. D'ailleurs, de partager, ils ont réglé 500 millions d'euros au fisc français. Donc, je ne sais pas si on a les détails de ce qu'ils devaient ou pourquoi ils devaient de l'argent, mais ça couvre 10 ans d'arriérés. J'imagine que le fisc a trouvé des raisons bien précises de taxer Apple de cette manière. Mais bon. On parle souvent du fait qu'ils ne payent pas leurs impôts. Quand on réussit à leur en arracher quelques millions, c'est peut-être bien de le mentionner aussi.
Là, on est très clairement dans une transaction à l'amiable. À mon avis, ils devaient beaucoup plus que ça.
C'est très probable.
C'est compliqué, le « ils devaient ». Et c'est le même problème pour Google et les autres. Les gens pensent que c'est une bataille entre le fisc de chaque pays européen, par exemple, et chacune de ces entreprises. En fait, non. En fait, on est dans de la géopolitique de l'impôt, c'est-à-dire que ces entreprises-là payent beaucoup d'impôts. Je dirais, Apple est le premier contribuable au monde, mais ils les paient aux États-Unis sur leurs résultats consolidés. Et alors évidemment, oui, il y a quand même des trucs qui passent à l'as, mais sur tout l'argent qui rentre aux États-Unis, parce que c'est finalement quand même là que ça se passe, ils payent beaucoup d'impôts. Et la bataille, c'est de savoir à quel moment est-ce que les États-Unis seront prêts à lâcher un peu de lest pour, en gros, laisser ces entreprises payer des impôts là où elles gagnent de l'argent, ou moins les déplacer. Parce qu'en fait, le débat, c'est de dire, vous faites du chiffre d'affaires, mais au titre de la marque Apple, par exemple, la France envoie plein d'argent à l'étranger pour payer des droits sur la marque, les brevets, etc. Donc, le plus simple, ce serait que la loi change quand même.
Bah, et en
et
plus,
je parle pas de la loi française. Hein.
Non, bien sûr, c'est ça. C'est que la loi dont on parlait régulièrement, qui est la loi sur les transactions dématérialisées, qui veut taxer le chiffre d'affaires global de la société dans le pays, qui est en train d'être mise en place en France et à terme en Europe, ne toucherait pas particulièrement Apple, parce que Apple vend des produits physiques, c'est des vendeurs de téléphones. Oui. Là, cette loi s'appliquerait surtout aux produits dématérialisés. Même si Apple se lance dans les services, c'est oui. encore qu'une petite partie de leurs revenus.
De toute façon, quand tu mets dans le même sac un Apple, un Amazon et un Facebook, tu sais que tu es en train de faire une cote mal taillée. Il y a pas, voilà. Ouais. Et la cote est si mal taillée que la fameuse loi sur, enfin, qui va les taxer sur quoi, 3%, etc. de leur chiffre d'affaires,
c'est ça, oui.
Risque fort de toucher aussi des Français. J'avais en tête, il y avait qui, Dassault Systèmes, Ubisoft, etc. Qui eux vont carrément faire la tronche parce que les impôts, ils les payaient déjà.
Bon, peut-être qu'il y aura moyen de défalquer cette somme des impôts que tu payes déjà. Pourquoi pas?
Ah bah non. Ah bah non. Non, parce que le problème, c'est qu'en droit français, non, tu peux pas faire...
C'est l'un ou l'autre.
C'est l'un ou l'autre. Alors, c'est pas l'un ou l'autre. Tu peux pas faire une loi ad hominem. Tu peux pas dire, voilà, je fais une loi qui ne vise que Google.
Non, mais tu dis, si tu payes déjà tes impôts à une hauteur plus importante et que l'essentiel de tes revenus proviennent d'autres types de... Ah oui, tu veux dire que de toute façon, ils doivent payer les impôts sur ça aussi. Oui, d'accord.
Mais oui, bien sûr, parce que en gros, on a fait le portrait robot, c'est-à-dire l'entreprise qui fait je ne sais plus combien de chiffre d'affaires, dont une part extrêmement importante à l'étranger, etc., etc. Et le problème, c'est que dans ce portrait robot-là, bah, tombent des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire.
Bon, on en reparlera, je suis sûr, quand ça aura été mis en place. dans le grand débat, il y a l'UFC Que Choisir qui est venu mettre un petit peu son grain de sel, et une des propositions qu'ils ont fait est intéressante. Ils ont proposé de passer la garantie des produits, de tous les produits, de 2 ans à la durée de vie du produit pour les produits tech. Hein, on parle de produits tech. À vrai dire, je ne suis même pas sûr qu'on parle que de produits tech. Mais donc, l'idée serait de passer de 2 ans de garantie aujourd'hui à toute la durée de vie parce que, selon eux, il n'y a pas de raison que la garantie ne couvre que 2 ans alors que le produit, il est censé fonctionner pendant toute sa durée de vie. Si on l'utilise 5 ans, et bah, il est censé fonctionner pendant 5 ans, pas pendant 2 ans.
Et, la question du coup, c'est de savoir, est-ce que sa fin de vie devient un défaut?
Je sais pas, ça il faudrait peut-être c'est une réflexion qui est assez peu détaillée, mais il parle effectivement d'autres bénéfices comme le fait de tordre le cou à l'obsolescence organisée, c'est comme ça qu'il l'appelle, des avantages pour l'aspect écologique, etc., etc. En 2 mots comme ça, moi naturellement je me dis, mais enfin faut pas déconner, 2 ans c'est déjà beaucoup, mais peut-être que c'est mon conditionnement d'habitude de se dire, bah oui, on a une garantie de 2 ans, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une garantie sous toute la durée de vie du produit, à définir effectivement, comme tu dis Cédric, quand est-ce que le produit arrive en fin de vie? Mais est-ce que ça ne serait pas cohérent de se dire, bah, il est censé marcher, donc il est censé marcher jusqu'à ce qu'il ne marche plus?
Oui, mais s'il ne marche plus...
Non, mais disons par exemple qu'un téléphone, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ton iPhone, il est censé marcher, on va dire, 5 ans. Et il est garanti que 2 ans. Donc, si...
Ça dépend, justement. Apple s'est quand même fait taper là-dessus, parce qu'au fur et à mesure que les nouveaux modèles sortent, on a des mises à jour majeures de iOS, donc du système d'exploitation, qui fait que c'est de plus en plus lent, jusqu'à un niveau qui est inacceptable.
Oui, on pourrait arguer de ce fait-là, mais je suis sûr que si on demande à Apple... Oui, mais Fred, si on demande à Apple combien de temps est-ce qu'on peut utiliser votre produit, ils ne vont pas te dire 2 ans. Ils vont dire, bah, vous pouvez l'utiliser... Enfin, je ne sais pas combien de temps, mais plus que 2 ans. Donc, la question devient, est-ce que cette durée pour laquelle ils vont dire... on peut utiliser notre produit, est-ce qu'il ne devrait pas être garanti tout ce temps-là?
Alors si, ils parlent quand même de temps, hein, c'est-à-dire que régulièrement dans les keynotes par exemple, ils disent, regardez, les dernières mises à jour d'iOS, elles concernent aussi des iPhone 6S, enfin tu vois, des modèles qui ont 4, 5, 6 ans. Je suis allé voir ce que dit le C'est Que Choisir, eux disent il faudrait allonger la garantie légale, ouvrez les guillemets, en fonction de la durée de vie du produit. Là je comprends mieux déjà. Donc en fait, décider par classe de produit combien de temps doit durer un téléviseur, par exemple. C'est une bonne question, parce que le cycle de renouvellement du téléviseur, c'est pas le cycle de renouvellement du smartphone.
Vous voulez pas répondre à ma question, hein.
Quelle est ta question?
Ma question est, est-ce qu'il faudrait allonger la garantie à la durée de vie du produit ou pas, comme le suggère?
Ce sera pas à la durée de vie du produit, mais c'est décider
en fonction,
durée de vie normale par classe de produits. Et là, tout à coup, je commence à comprendre le processus intellectuel de ce que choisir. De fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un appareil électronique, en général, il meurt de deux façons, soit dès la naissance, ou quasiment, soit très longtemps après. C'est rare les pannes absolument spontanées au bout d'un an par exemple. L'allonger, oui, pourquoi pas, mais il va falloir décider arbitrairement de combien de temps, tu l'as dit, doit durer un smartphone. C'est intéressant.
Complètement. On arrivera à des logiques de durée d'utilisation conseillée.
Ouais. Bon,
Dans les faits, les gens changent de smartphone tous les 18 à 24 mois. C'est en train de se rallonger maintenant.
Ça s'allonge beaucoup, oui.
Ça s'allonge parce que les smartphones sont vachement bien, parce que la différence d'une année sur l'autre est moins marquante qu'il y a 6 ou 7 ans. Tu sais quoi, les téléphones ont grandi, c'est bête, hein, mais les téléphones sont agrandis, donc on a de plus grosses batteries. Donc en gros, la batterie meurt beaucoup moins vite qu'avant.
Bon, moi, ma réponse, c'est peut-être. Donc,
je
me mouille pas tellement
mouillé,
non plus.
Ah bah là, oui, ça, c'est très peur.
Ou alors, le futur nous le dira.
C'est ça, exactement. Et nous ne le saurons que dans un certain temps. J'ai essayé de faire la voix du journaliste. Tiens, je vais faire ma news
là,
suivante
c'est
avec la
voix
du
journaliste de Groland, hein, quand même.
Oh, moi, je trouve que c'est pas si loin de la vérité, quand même. Hein. Non, j'insulte ta caste.
Non,
désolé.
Non, c'est pas ma caste. J'en profite pour placer un truc parce que c'est presque un podcast et ça mérite d'être écouté par tout le monde. Il y a quelques temps, ça a plusieurs années déjà, Arte Radio avait fait un sujet extraordinaire sur pourquoi, vous pouvez taper, pourquoi les journalistes parlent comme ça.
Je l'avais entendu, oui. C'est
magnifique. C'est une consoeur qui a fait ce sujet et elle est allée voir des rédacteurs en chef en télé, en radio, etc. sur pourquoi les voix à la télé, à la radio sont comme ça, où tu sais, tu rajoutes des virgules qui n'existent pas.
Et il y a une intonation que nous ne comprenons pas.
Voilà, et je veux pas, tout vous dévoiler,
mais final,
elle fait écouter à un rédac chef un sujet de Groland, et le type dit quand même, là, c'est vraiment pourri. Et il se rend pas compte que c'est pas du vrai.
Ouais.
Mais allez l'écouter. Pourquoi les journalistes parlent comme ça?
Ouais. Dernier sujet qui va nous faire sourire un petit peu. Je sais pas si vous avez vu passer cette information, mais jeu le plus populaire du monde, c'est Fortnite. Évidemment, si vous avez des enfants, vous le savez. Et il y a un dynamisme de la société qui édite ce jeu, qui s'appelle Epic, qui est absolument admirable et que moi, je vante dans tous les épisodes du rendez-vous jeu. Quasiment à chaque épisode, il y a un nouveau truc qu'ils ont fait. La dernière chose qu'ils ont fait, c'est d'inviter un DJ qui s'appelle Marshmello et qui a fait un concert en live dans le jeu Fortnite. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient connectés au jeu ont pu voir sur scène, dans le jeu est apparue cette scène, et ils ont pu voir pendant 10 minutes un concert où l'avatar de Marshmello reproduisait les mouvements que faisait Marshmello en live dans son studio, et ils ont pu écouter la musique par le jeu pendant 10 minutes. Il y a 10 millions de joueurs qui ont assisté à ce concert en même temps, alors évidemment chacun dans leurs instances différentes du jeu, mais 10 millions de personnes en même temps, et à la fin du concert, à la fin des 10 minutes, évidemment ils ont tous été retéléportés dans les airs, ils ont atterri, ils se sont tirés dessus, comme dans tout bon jeu de Fortnite. Mais j'ai trouvé ça, assez magique comme événement.
Complètement. Là, on est face à, quelque part, l'avenir des médias. C'est que Fortnite, c'est plus un jeu, en fait.
Oui, beaucoup de gens disent ça.
C'est une plateforme où on va discuter, où on se retrouve, où on passe un moment ensemble, où on écoute de la musique. C'est devenu beaucoup plus qu'un jeu et c'est une très bonne chose. Tout en sachant que le coût du concert auquel on peut assister à distance, ça existait il y a 10 ans dans Second Life, hein, mais...
Tout bon, à fait, oui.
Je t'ai rien dit.
Oui, non, Second Life était... Disons que sur Fortnite, il y a un enthousiasme pour le jeu en lui-même qui est...
Oui.
Qui alimente la popularité. Mais il y a beaucoup de gens qui disent effectivement Fortnite a l'opportunité de devenir presque une sorte de Facebook, quoi. Il y a tellement de gens qui passent du temps là-bas pour jouer, mais aussi pour s'amuser, pour faire des trucs.
Et
ce qu'ils
média.
Font, c'est un média, effectivement.
Tout à fait. D'ailleurs, le patron de Netflix dit aujourd'hui, notre plus gros concurrent, c'est Fortnite.
Tout à fait, oui.
Pas forcément en termes de contenu, mais en termes
de temps. Non, il parle de temps, évidemment, mais
oui. Bien sûr.
Oui.
c'est intéressant parce que, alors de fait, Second Life avait eu le tort d'avoir peut-être raison trop tôt, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a il s'est passé plein de choses de ce côté-là. C'est intéressant de voir des plateformes qui deviennent des plateformes événementielles, j'ai envie de dire. Et c'est amusant parce que ça renforce aussi l'idée de l'importance du direct. Parce que c'est pas la même expérience si tu la vis en différé. C'est bête, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Mais de fait, 10 millions de personnes pour écouter un concert sur Fortnite, c'est quand même assez dément. Parce que nous qui sommes tous des adultes quarantenaires passés, on soupçonne pas la vague qu'est Fortnite. Toi, Patrick, tu la vois d'un peu plus près parce que tu fais plus de choses sur le jeu vidéo. Mais moi, j'ai mon fils de 6 ans qui m'a demandé ça il y a 2 semaines, qui me dit « Papa, on pourrait mettre Fortnite sur la Switch ?» Mais mon chéri, tu as 6 ans, donc c'est hors de question. Qui t'a parlé de ça ? Et là, tu commences à voir l'influence de la cour d'école. C'est terrifiant, quoi.
Mais effectivement, les adultes ne se rendent pas forcément compte du phénomène que c'est. Il faut avoir des enfants pour comprendre. Moi, j'ai deux ados. Voilà, j'ai deux ados à la maison, et je me rappelle d'une fois où j'avais un de mes enfants, Gaspard, qui était sur Fortnite, et je lui disais, mais tu veux pas sortir, aller voir tes potes ? Enfin, ils sont où tes potes ? Et il m'a regardé en me disant, ils sont là.
Ils sont là. Ouais.
Et je suis avec eux. Ah non, c'est ce qu'on fait. On est ensemble là.
C'est exactement ça. C'est un endroit où les gens s'amusent ensemble. Le plus proche, moi, je dirais que Second Life, c'était un phénomène, mais c'était presque plus un phénomène de communication. Il y avait énormément de choses qui se passaient, mais c'était moins jeu. Le plus proche, c'est soit peut-être Minecraft, mais c'était un peu plus solitaire, sinon World of Warcraft. Mais on était à une autre époque, c'était pas du tout la même chose. Il y avait pas autant d'instantané dans ce type d'événement. Et c'est sûr que Fortnite, on en parle de temps en temps parce qu'on parle des gros phénomènes de jeu, parce que le jeu et la technologie sont cousins. Donc j'en parle de temps en temps aussi dans le rendez-vous tech. C'est sûr que dans le rendez-vous jeu, on en parle depuis maintenant plus d'un an, et c'est une vague incroyable. D'ailleurs, à signaler que si vous aimez ce type de jeu, Apex Legends est en train de faire incroyablement fort. C'est un nouveau jeu qui est sorti du même type que Fortnite, et il a en une semaine 25 millions de joueurs, ce qui est invraisemblable. Fortnite avait pris quelque chose comme, je veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 2 mois, 3 mois pour atteindre ce chiffre. Et déjà à l'époque, pour Fortnite, c'était invraisemblable comme succès. Donc, Apex Legends ne parle pas aux mêmes personnes. Donc,
il est très très abouti, le Apex Legends. Ils ont fait très très fort de concevoir un jeu dans le secret le plus complet.
Ouais, et de réussir à cette communication. Enfin bref, allez écouter le rendez-vous jeu si ça vous intéresse. Fortnite, c'était... C'était 3 mois, c'est ça, pour atteindre 25 millions à peu près. Donc, bref, écoutez, on arrive au bout de cet épisode qui a été un petit peu plus long que prévu, mais toujours dans le bonheur et dans la joie. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver si les auditeurs veulent un petit peu plus de vous, Fred, puisque tu prenais la parole, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter, sur le web ? Dis-nous tout.
Sur mon blog, tout simplement, fredcavazza.net, ça fait 15 ans que je le rédige. Allez dessus, vous trouverez toutes mes réflexions et mes dernières analyses.
Super, merci beaucoup Fred. Cédric.
Cédric sur Twitter, tous mes papiers sur LCI.fr et puis les chroniques sur LCI si vous vous levez tôt le matin, avec les croissants le samedi dans la matinale week-end.
Magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous vous rendez compte, on parle toujours de Twitter, hein, ils sont partout. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous le savez, on a le Patreon qui vient d'être refondu, retravaillé avec cet accent sur la communauté, ou simplement si vous voulez soutenir une émission qui vous plaît et qui vous intéresse et que vous écoutez depuis longtemps, que vous préférez aux autres, même peut-être, c'est possible, et ben c'est sur patreon.com/rdvtech avec toutes ces nouvelles récompenses axées sur la communauté. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je vous en dirai évidemment plus dans les émissions à venir. Merci à vous tous. Comme je le disais, les liens sont dans les notes de l'émission, les liens vers les comptes Twitter, ou en tout cas les noms des comptes Twitter. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.